Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
L'écriture a ceci de mystérieux qu'elle parle. C'est de Paul Claudel. Eh bien, nous, l'écriture, la littérature, on en parle ici toutes les semaines à l'émission Un livre découvert. C'est Clotilde Saye et ses invités qui vous souhaitent la plus cordiale des bienvenues.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, à l'émission, je reçois un des habitués. On a toujours hâte d'entendre ce qu'il a à nous proposer. C'est Gérard Saint-Denis qui est déjà au bout du fil. Ensuite, mon invitée aujourd'hui, elle est déjà près de moi, c'est Sylvie Payette. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Ravie de vous accueillir. Aujourd'hui également, une chronique sur la table de chevet de Clotilde, parce que là, ça monte la pile. Et il y a tellement de livres dont j'ai envie de vous parler. Aujourd'hui, il y en aura deux. Il y aura une chronique de bouche à oreille, une petite bande-annonce pour la semaine prochaine. Je vous annonce la venue de Louise Mercier, à qui l'on doit le livre Le bonheur, la dépendance à soi-même, et Un homme effacé d'Alexandre Postel. Des nouvelles et des livres, on évoquera la mort il y a un peu plus de deux semaines de Günter Grass. Et puis, bien évidemment, il y aura quelques titres en rafale, quelques nouveautés pour vous à la toute fin de l'émission.
Les livres audio, ils en mangent.
Et revoici cet habitué de notre studio. Bon, bien sûr, il n'est pas là en direct, il est par téléphone, mais un jour, peut-être, on va le voir débarquer ici même. C'est Gérard Saint-Denis. Bonjour, Gérard.
Bonjour, bonjour.
Comment allons-nous?
Très, très bien. Et je voulais profiter de cette occasion pour vous saluer, pour vous dire que notre ami André Vincent, qui a pris sa retraite tout récemment...
Il faut préciser qui il est.
SQLA,
voilà, le grand patron du SQLA.
C'est ça. C'est ce grand, cet homme qui est quand même été à la base de beaucoup de livres sonores, etc. Il est en France.
Oui.
Il est parti faire un tournoi d'échecs. On sait qu'il est aveugle. Je ne sais pas comment il va se débrouiller, mais il m'a dit qu'il remporterait le championnat. On en reparlera.
Ça, là, j'ai...
Et on le salue s'il peut nous écouter à distance.
Mais en tout cas, j'ai hâte de voir s'il va gagner. Mais effectivement, je suis comme vous, Gérard. J'aimerais bien savoir comment fait un aveugle pour jouer aux échecs. C'est sûr qu'il y a un moyen. Certainement qu'ils passent aussi par l'audio.
Je pense que grâce à leur mémoire fantastique, ils parviennent à faire des choses merveilleuses.
Moi, je parle
d'un livre formidable.
Oui.
Un livre que j'ai apprécié beaucoup, qui est un livre d'Alain Saunier qui s'appelle « Ici était Radio-Canada ».
Oui, oui.
Et on sait que ça raconte un peu la mise en place et la destruction de la société Radio-Canada. C'est terrible. Et il était, ce cher André et ce cher Alain.
Alain Saunier.
Il était le directeur général de l'information Radio-Canada. Et un 22 février 2012, on l'a mis à la porte parce que on veut couper.
Mm-hmm.
On veut couper. On coupe.
Mm-hmm.
Et les conservateurs n'aiment pas Radio-Canada.
C'est ce qu'il se dit, oui.
Je ne sais pas pourquoi, mais il n'aime pas ça. C'est pas. Et c'est une philosophie. Mais nous, Radio-Canada, pour nous autres, c'est très, très important.
Mais oui.
Pour les francophones, c'est encore plus important parce que on se demande ce qui serait arrivé au Québec s'il n'y avait pas eu Radio-Canada qui a été fondée en 1936. Et ça a suivi toute l'histoire, toute la révolution tranquille, etc. Radio-Canada a joué un rôle très, très, très important. C'est un essai très dynamique, je dirais, qui est percutant et qui nous montre les dessous d'une opération subtile des conservateurs pour démanteler tout simplement le réseau d'État.
Oui.
Et on le sait plus récemment, M. Apple qui a dit qu'il n'aimait pas Radio-Canada,
Les libéraux ne l'aimaient pas plus non plus.
Ils ont coupé aux autres aussi.
C'est
Là, ils ont promis les deux partis, les libéraux puis les néo-démocrates ont promis qu'ils remettraient un peu d'argent, parce que ça n'a pas de bon sens, s'ils étaient élus.
Oui.
Bon, en tout cas, je trouve que c'est quand même un livre intéressant. C'est un
mais
livre
qui pour nous ramène... Est-ce qu'il est revanchard? Est-ce que c'est un pamphlet?
Il établit des faits, puis il établit des interrogations. Il se questionne.
Oui.
Il se questionne sur l'importance. Prenons par exemple toute la question des téléromans. Vous savez comment est-ce qu'on est des amateurs de téléromans au Québec?
Et j'ai Sylvie Payette à côté de moi qui pourra aussi en témoigner.
Notre histoire, c'était une façon de nous valoriser.
Mais oui, le temps d'une paix,
on
tout ça.
Moi, je suis allé au théâtre récemment, là, je disais ça avec Gertrude, on parlait de ça. On a appris ça quand on a vu le théâtre Alcan. Vous vous souvenez du théâtre Alcan qu'on avait à Radio-Canada? C'est ça qui nous a montré le théâtre. Mm-hmm. Ça nous a amené dans toute la culture.
Exactement.
Et Radio-Canada a un rôle à jouer. Oui. Et le monsieur qui est là, le monsieur Hubert Lacroix, il fait des coupures. Mm. C'est drôle. La section francophone de Radio-Canada représente 22% du budget total de Radio-Canada.
Oui.
Okay? Par contre, les coupures, c'est 50-50.
C'est sûr.
Donc, c'est là qu'on est très, très pénalisé. Et ceux qui nous écoutent à l'extérieur du Québec, vont comprendre aussi s'il y en a, ils vont comprendre que les francophones sont encore plus mal pris que nous autres.
Oui.
C'est très sérieux. C'est un livre intéressant. C'est un livre de réflexion. C'est un livre qui nous pousse à nous demander comment on va réagir si on perd cet outil très important pour nous autres.
Mais vous savez, il y a en même temps, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais j'ai travaillé moi-même pendant 17 ans à Radio-Canada et notamment à la feu chaîne culturelle avant que ça devienne Espace Musique. Donc, je touchais à la littérature, je touchais aux concerts, je touchais au théâtre. On a fait des magazines de danse. On a accueilli tout ce que le milieu culturel pouvait compter d'artistes, de réalisateurs et de... Bon. Et lorsque la chaîne culturelle a fermé... Oui, il y a eu une ou deux pétitions dans les journaux. Tout le monde a crié au scandale, mais ça n'a pas bougé plus que ça. Comment ça se fait que la communauté artistique n'a pas bougé plus que ça à ce moment-là? Comment ça se fait qu'on n'a pas eu le support? C'est pour ça que je me dis aussi, à un moment donné, je me demande si on a été assez fort à crier et je me demande si encore maintenant on crie assez fort pour sauver Radio-Canada.
Moi, j'ose pas intervenir, mais je suis tellement d'accord avec vous deux. Pourquoi on n'intervient pas peu? Je pense que c'est des emplois précaires. Souvent, les gens sont pigistes dans le monde artistique et ils craignent de perdre leur emploi s'ils vont prendre la défense comme ça contre leur propre employeur.
Mais nous qui sommes à l'extérieur.
Oui, ça peut-être. Je sais pas, c'est mystérieux pour moi. Et vous avez tellement raison. Radio-Canada, c'est les téléromans, que ce soit au niveau de tout. Mm-hmm. C'est ce qui a fait que les gens ont découvert le monde, ont appris tellement de choses. On a eu aussi des réflexions de nous-mêmes, c'est-à-dire on se voyait, le comportement, on voyait comment on pouvait être ensemble, vivre ensemble, s'aimer ensemble, tout ça était important.
Et plus que ça aussi, il y a toute la question des informations, de l'information qui était donnée à Radio-Canada, qui est très importante. Pensons simplement à l'émission Enquête, qui a été à l'origine de la commission Charbonneau.
Oui, c'est vrai.
Il faut penser à ça, là. C'est juste cette réalité-là, c'est beaucoup.
Et nous en parlions aussi avec...
La question qu'on doit se poser, Chloé, que les gens vont se poser, est-il trop tard pour sauver cette institution? C'est ça qu'il faut se poser. Moi, je me dis... en tout cas, c'est un livre qu'on lit en 10 heures, facilement, qui est très agréable, qui n'est pas fatiguant, etc. Mais je ne vais pas terminer sans vous dire une chose, pour dire à nos auditeurs, de ne pas oublier qu'il vient d'apparaître sur le site du SQLA, le guide des nouveautés des derniers 6 mois vient d'apparaître et est disponible. Ça, c'est merveilleux.
Oui.
On retrouve tous les nouveaux livres qui sont apparus dans les derniers 6 mois, que ce soit des livres, des romans canadiens, étrangers, fantastiques, historiques, aventures, policiers, suspense, sentimentaux, etc. Ça va à peine d'aller sur le site pour ceux qui sont sur le net et d'aller voir ces nouveautés.
Il y en a énormément.
Ah, c'est merveilleux.
Il y en a énormément.
Il y en a 800. Je sois satisfait de notre curiosité. Et je souhaite à tous nos auditeurs beaucoup, beaucoup de lectures en attendant que le printemps vienne et qu'on puisse continuer à mettre nos plans dehors. J'ai assez hâte, madame.
J'arrive, le printemps.
Mais c'est masqué, madame.
Ah, mais moi, j'ai bien hâte que vous me les apportiez en studio, vos tomates un de ces jours. Et moi, je vous ai promis de vous ramener des escargots lorsque j'irai en France.
C'est merveilleux.
Vivant?
Non,
des vrais escargots, pas des achatines.
Je voulais, on a encore une petite minute. On a juste une petite minute, hein, Gérard.
D'accord.
Je suis allée voir le site de la bibliothèque francophone. C'est là, comment vous l'appelez, l'ABF, BRF?
BNFA, oui.
Voilà, BNFA. C'est vraiment extraordinaire et j'ai vu qu'effectivement, on pouvait s'inscrire très facilement et qu'on avait accès à toutes les nouveautés. Oui. Je voulais être sûre avec vous dès l'instant qu'on peut prouver qu'on a une déficience.
Une attestation de vision. C'est ça qu'il faut faire. Faut demander à notre optométriste de nous donner une attestation de vision. Et c'est ça qu'on numérise puis qu'on envoie par courriel. Et en temps de 15 jours, on reçoit un numéro d'adhésion.
Parfait.
Et on commence à recevoir nos livres.
Et c'est aussi simple que ça, hein, parce que vraiment, je suis allée sur le site, c'est celui que j'ai trouvé le mieux fait, et parce que la semaine prochaine, je reçois entre autres quelqu'un qui n'est pas encore disponible au SQLA, mais qui est disponible à cet endroit-là. Alors, j'ai voulu voir si je pouvais effectivement télécharger le bouquin, et c'est effectivement très, très facile. Il suffit, comme vous le dites, d'avoir un papier pour prouver qu'on a une déficience. C'est tout.
Et j'invite nos auditeurs quand même à le faire, parce que ça nous permet d'avoir accès à beaucoup, beaucoup de livres.
Redonnez-moi le nom du site, s'il vous plaît.
C'est BNFA.
BNFA.fr.
Oui. Bon, je ne peux pas vous...
De toute façon, BNFA, on tombe dessus. Parfait.
Je ne m'engage pas.
D'accord.
Je ne peux pas me faire chicaner, mais je n'aurais pas donné le
mot. OK, Gérard.
Je salue votre invité.
Ben, oui. Merci, ça me fait plaisir.
Je dois vous dire que faut penser que la lecture, c'est tellement merveilleux.
Merveilleux.
Et
pour nous, c'est tellement merveilleux de l'écrire. Alors, c'est un plaisir partagé.
Nous, la chance qu'on a, même si on est aveugle, la chance qu'on a, c'est qu'on écoute ça les yeux fermés et on fait tous les rêves qu'on puisse
faire. Ah oui, parce qu'alors nous, les yeux fermés, ça ne marche pas du tout.
Ben non, vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable. Et quand on manque d'électricité, des fois, dans les tempêtes l'été, moi, je continue à lire.
Bon, ben écoutez.
Et là, je n'ai pas capable.
Gérard, je vous adore, vous le savez, mais là, je ne veux pas trop empiéter sur l'entrevue avec Sylvie Payette, qui est mon invitée aujourd'hui. Alors, vous ne m'en voudrez pas. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse fort, fort, fort.
Merci
de nous avoir parlé de ce livre d'Alain Saunier, dont je répète le titre, « Ici était Radio-Canada. L'imparfait est important. » Et il est absolument disponible. Merci beaucoup, Gérard.
Au plaisir.
Au revoir.
Bye-bye.
L'invité spécial.
C'est vous, ça, l'invité spécial, Sylvie Payette. Bonjour,
rebonjour. Alors, je vous avise tout de suite que j'ai une drôle de voix et puis ça se peut que je tousse un peu parce que le printemps est arrivé et avec lui, les bourgeons et les allergies.
Ben oui, effectivement, il n'y a plus de neige, mais c'est autre chose. Bon, mais là, en studio, vous êtes en principe...
Ah oui, ça va bien.
Je
préviens parce que s'il y a des gens qui connaissent ma voix, ils vont peut-être trouver qu'elle semble un petit peu déraillée.
Sylvie Payette, nous avons... Il y a plein de choses dont il faut que je parle avec vous. Bon, d'abord, rappeler, faut-il le faire, que vous êtes la fille de Lise Payette, que vous êtes tombée dans l'écriture relativement jeune. Vous avez écrit quand même assez tôt, finalement.
Oui, mais moi, j'avais des parents qui étaient journalistes,
oui,
donc écrire...
Ça faisait partie de la...
Oui, parce que pendant que mes parents étaient à leur machine à écrire, il fallait bien trouver quelque chose, et des fois, j'avais envie de me mettre à la machine et puis d'inventer moi aussi.
Ben
donc,
oui.
Effectivement, quand on a des gens comme ça devant nous qui font quelque chose, c'est sûr qu'on commence tout.
Et je dirais que ce que vous aimez particulièrement écrire, parce que je trouve que c'est ce qu'on retrouve dans vos livres, ce sont des personnages. Vous aimez mettre en scène des personnages, et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez adoré écrire aussi des téléromans. Alors, toutes les séries, là, il y a eu quoi? Il y a eu Chambre en ville. Bon, vous avez participé à Marilyn, vous avez écrit...
Toute la lecture, ça fait La bonne aventure des Dames de cœur, Un signe de feu, Marilyn, Chambre en ville, La part des anges.
En effet, oui.
Et puis, Les pieds dans les plats. Et voilà. Mais c'est ça. C'est quand je les mets en ligne comme ça, ça fait beaucoup.
Alors, écrire des téléromans, on s'entend. Là, il n'y a pas de narration. Ce sont vraiment que des personnages. C'est
oui,
vraiment.
Qu'on fait évoluer en interaction, qui sont toujours ou presque en dialogue.
Est-ce que c'est très différent que d'écrire
c'est
des
très,
romans?
C'est très, très différent.
Qu'est-ce qui est différent?
Parce que, justement, il n'y a pas du tout de descriptif. C'est le réalisateur qui le fait. Donc, nous, ce qu'on planifie, c'est que ça se passe dans tel endroit. On peut mettre un petit peu de direction. Par exemple, elle va aller mettre la table. Bon, c'est aussi vague que ça. Mais ce qui est important, c'est le dialogue, donc vraiment les répliques. Mm-hmm. Parfois, on va mettre un détail sur la façon dont elle fait la réplique, de façon humoristique ou triste. Bon, on donne des points comme ça. Mais c'est tout de suite dans l'action. Mm-hmm. Et c'est toujours dans l'action. Alors que quand on fait un roman, on doit présenter, il y a quelque chose que les gens ne voient pas, justement.
Mm-hmm. On met la table, en quelque sorte,
oui,
non?
Oui, et il faut justement leur dire, voilà, ce que vous voyez, c'est ça. Mm-hmm. Donc, il y a une partie où on fait un peu le travail du réalisateur et on rentre l'histoire. L'histoire ne commence pas sur, nécessairement, peut-être des fois, mais nécessairement sur un dialogue directement. Ouais. Mais on a une présentation du personnage, souvent plus sur sa psychologie, sur ses actes d'abord et non pas sur ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Et c'est très différent. Et puis, ça faisait longtemps qu'on me demandait d'écrire des romans, même à l'époque de Chambre-en-Ville, il y a 25 ans, on me le demandait. Et j'avais vraiment l'impression que je ne pourrais pas le faire.
Pourquoi?
Parce que j'avais l'impression d'avoir un type d'écriture qui était dans le dialogue directement. Même quand je lis certains romans, des fois, quand il y a trop de descriptions, ils m'endorment, ils me perdent en route. Alors, des fois, je saute un paragraphe ou deux parce que je n'ai pas nécessairement envie de savoir ces détails-là. Ce qui fait que même quand j'écris mes romans, j'essaie de d'amener les personnes à l'endroit où ça se passe, mais je leur laisse un espace pour l'imagination. J'aime bien décrire les points forts, mais laisser un peu de place. C'est un choix personnel que j'ai fait. Je n'étais pas certaine au début que ça allait plaire. Et puis, je n'étais même pas sûre que j'allais faire un roman au complet. Et puis, tranquillement, j'ai commencé et j'ai adoré ça, mais vraiment...
Alors, ce roman-là, parce que je l'ai là sous la main, il est sorti en 2000...
L'été dernier.
Hein, c'est ça, l'été dernier. Et ça s'appelle « Petit déjeuner compris ».
Oui.
Signé Sylvie Payette. Le petit déjeuner compris, d'ailleurs, il arrive très tard.
Hein, il est sous-entendu souvent, jusqu'au moment où on comprend, parce que là, tout à coup, c'est dit. Mais c'est sous-entendu souvent parce qu'en fait, c'est la difficulté quand on rencontre un nouvel amour de passer cette étape qui est essentielle. Ouais. Allons-nous ou pas réussir le petit déjeuner ensemble? va-t-il rester ce jeune homme pour le petit déjeuner? Parce que, bon, ça arrive que certains partent avant même le petit déjeuner. Il y a des petits déjeuners où on n'a plus rien à se dire puis on se rend compte que finalement, on n'ira nulle part avec cet amour-là.
C'est ça, tout a été dit.
Oui, ou alors on se dit, oups, finalement, même la nuit, on n'a pas envie de la repasser du tout. Donc, tout peut arriver. Alors, le petit déjeuner compris, pour moi, c'est vraiment un signe d'amour.
Oui.
C'est de dire quand on a tout bon, le petit déjeuner compris.
Alors, rien à voir, vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, avec le Bed & Breakfast. Là. Alors, nous sommes dans l'univers de la télévision, que vous avez bien connu, forcément.
Oui.
Vous avez, l'héroïne, le personnage principal, est une maquilleuse. Vous avez été maquilleuse.
Oui, ça paraît plus maintenant parce que je me maquille très peu aujourd'hui, mais c'était dans une autre vie,
Oui.
Mais souvent, les maquilleuses, vous remarquerez, ou les maquilleurs se maquillent très peu aussi parce qu'on développe, on aime maquiller, mais on aime aussi la simplicité.
D'ailleurs, il y a des belles pages sur le maquillage, dont une que j'ai lue la semaine dernière qui concerne cette femme. Attendez que je retrouve ça ici. C'est ça, vous dites, après une journée épuisante en studio à maquiller, c'est une femme qui était... où est-ce que j'ai vu ça? C'est l'animatrice de Questions sans réponse qui est un peu défraîchie. Puis vous dites que il faut faire beaucoup d'efforts pour amener cette femme-là à être contente et que finalement vous la transformez tellement que ça leur fait du bien. Mais que vous, ça draine beaucoup d'énergie. J'imagine. Sortons du livre un petit peu. C'est vrai ça?
Oui, tout à fait, parce que le problème des animatrices ou des comédiennes, c'est souvent qu'il y a une trop grande importance sur leur aspect physique.
Ah,
c'est,
oui.
c'est leur carte de visite, c'est leur carte d'affaires, c'est leur garantie d'emploi.
Oui.
Et très vite, elles se rendent compte que ça va moins bien. La caméra est terrible, surtout aujourd'hui en HD.
Ça pardonne pas.
Ça pardonne absolument pas. Donc, le travail de la maquilleuse est... éventuellement de corriger non pas la personne, mais l'image qu'elle donne. Parce qu'il y a des gens, vous le remarquerez sûrement en photo, on va voir des gens, on se dit, mais elle ne se ressemble pas du tout en photo. Donc, nous, il faut qu'on arrive à ce que la photo, l'appareil, la mécanique qui est derrière, l'éclairage, la caméra, donne la véritable image ou la meilleure image possible de la personne. Ouais. Et quand on y arrive et qu'elle se regarde, les comédiennes, ces gens-là reprennent confiance. Souvent, on va le sentir physiquement qu'elles disent, OK, non, je suis encore là. Je suis encore...
Alors, le fait que vous ayez choisi une maquilleuse, comme c'était votre premier vrai roman, est-ce que c'était pour vous sentir plus confortable, pour vous sentir dans un univers que vous connaissiez bien, puis...
Ben, c'est mon premier roman adulte.
Adulte, oui, c'est
mais
ça.
Mais j'avais quand même déjà Savannah.
Oui, dont on va
et
parler
puis un
aussi.
Autre qui s'appelle Chambre en ville, la suite, 17 ans plus tard, mais que vous n'avez pas ici. Je l'ai donné, justement. Mais donc, j'ai eu surtout envie de parler de ça parce que je vais souvent dans des soirées, au restaurant avec des copines et tout, et on me pose souvent des questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on a les traits tirés? Qu'est-ce qu'on fait quand on est fatigué? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je me suis dit, ben, tiens, je vais me faire un cadeau. Quant à faire un personnage, je vais l'envoyer dans ce milieu-là et je trouve que c'est formidable parce qu'on a l'impression que le maquillage, surtout au niveau du cinéma ou de la télé, c'est très superficiel. Et j'avais envie de dire non. C'est pas vraiment uniquement superficiel. Il y a des fois, ça redonne l'estime à quelqu'un.
Bien, on s'aperçoit dans votre livre qu'il y a des choses beaucoup plus superficielles que le maquillage, notamment quelques tempéraments.
Oui.
Par exemple, cette chicane entre les deux vedettes, là, cette chicane permanente, alors que finalement, on devine qu'ils s'aiment beaucoup, mais en tout cas, ça, je le dirais pas. Mais, est-ce que ça fait partie des choses qu'on voit réellement?
Oui, absolument. Ça m'amuse. Je dis, écoutez, il n'y a personne, il n'y a pas un comédien ou une comédienne précisément qui sont dans ces personnages-là. Je n'ai pas reproduit très exactement, mais les comédiens, les animateurs sont des personnes extrêmes qui doivent toujours être sur le bord des sentiments, de leurs émotions. Quand on doit interpréter, les auteurs aussi souvent, on ne peut pas se mettre d'armure, on ne peut pas se protéger parce qu'il faut avoir accès rapidement à des émotions très intenses. Donc, c'est vrai que ce sont des personnes intenses. C'est des pas toujours, mais souvent très intenses, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans l'extrême émotion de colère. Et ce sont des gens extrêmes. Il ne faut pas leur reprocher. Ça va avec le métier et c'est nécessaire. Je me souviens, j'ai entendu Marie Laberge un jour raconter en entrevue qu'elle ne mettait absolument aucune armure, ce qui faisait qu'elle était hyper sensible dans la vie, mais qu'elle refusait de se mettre quelque chose pour se protéger. Alors, c'est épuisant. C'est sûr qu'au niveau émotif, c'est toujours sur le bord de pleurer. Parce qu'on est proche, on fait de l'empathie avec les gens facilement. Donc, on se met dans la peau des gens, on essaye de comprendre ce qu'ils vivent. Donc, c'est évident qu'on est toujours proche de ces sentiments-là. Ce qui fait que les comédiens, surtout, probablement les animateurs aussi, mais c'est eux qui sont en avant, c'est eux dont le visage est là, c'est eux qui vont recevoir les coups. La première réaction, c'est ceux qu'on voit à l'écran, on ne pense pas à ceux qui sont derrière. Donc, ils vont au front un peu.
Exactement.
Ils sont en avant, ils se lancent. Alors, ils sont pleins d'insécurité, ils sont pleins de doutes. Et souvent, ça va créer ces sortes de relations-là, mi-amère, mi-humour, parfois avec de la tendresse, parfois avec un vieux bagage de coups qui se sont faits à un moment donné. C'est des gens qui se croisent.
Ouais.
Les comédiens, ils se croisent pendant un mois ou deux, après un tournage, ils ne se revoient pas pendant un an ou deux.
Oui, c'est ça.
Et puis, tout à coup, ils ont une aventure.
Ouais.
Et puis après, ils se séparent. Et puis là, ils sont obligés de jouer des amoureux. Alors, ça crée effectivement des drôles de relations.
Alors,
c'est un univers qui m'intéressait.
Oui,
je trouvais ça amusant parce que j'avais envie d'un roman. C'est un roman léger que j'ai voulu écrire avec vraiment, j'ai travaillé beaucoup pour qu'il coule.
Oui, c'est ça, exactement.
Alors, j'ai dit, je veux quelque chose pour...
Oui,
le...
qui soit facile, mais oui. Sympathique. Et puis qui nous apprend. Moi, je,
oui, c'est ça, mais je ne l'ai pas quand même.
Domaine. Non, non, c'est pas didactique.
Qu'il soit vide.
C'est ça, oui, non, c'est clair.
Ni vide, ni trop plein.
Non, c'est
alors,
ça.
Alors, je pense que c'est intéressant.
Si vous venez
ça.
Juste de vous joindre à nous, je suis en compagnie de Sylvie Payette et nous évoquions son livre « Petit déjeuner compris » qui est maintenant disponible au SQLA. Je voudrais qu'on ait quelques mots pour Savannah.
Oui. Alors c'est quand même autre chose parce que Savannah, bon, j'ai commencé avec Savannah en coupant un peu sur la description et en allant un petit peu à une façon de voir la télévision, c'est-à-dire que je mets en place, mais il n'y a pas beaucoup de descriptifs. Il y a, y a des rideaux qui volent au vent, point, on n'a pas besoin de décrire la chute de rein du rideau. Pardon. Mais Savannah, c'est le contraire, parce que c'est une jeune femme qui a découvert un codex ancien qui date de 700 ans au départ dans le premier tome et qui part un peu naïvement à la conquête du trésor des Templiers, pensant peut-être qu'elle, venant du Québec, comme ça, va découvrir quelque chose que d'autres ont cherché depuis 700 ans. En fait, il y a encore 5000 personnes minimum aujourd'hui qui le cherchent, ce fameux trésor. Et au fur et à mesure des livres, pour arriver à décoder ce document-là, elle doit traverser en même temps les époques, l'art, la culture, les lieux historiques. Elle découvre les symboles. Dans le premier, il faut donc qu'elle sache c'est quoi les Templiers, d'où ça vient, c'est quoi les chevaliers, c'est quoi ce trésor-là, pourquoi est-ce qu'il est caché quelque part. Et dès le tome 2, elle s'en va à Salem et elle apprend la véritable histoire des sorcières de Salem. Et en même temps, les premiers symboles qu'elle peut trouver dans son codex. Donc, c'est au fur et à mesure de cette recherche de symboles, on passe à travers vraiment des histoires, des époques. C'est de l'aventure. Vous ne vous ennuyez pas.
Vous êtes notre Dan Brown, Sylvie.
Exactement. Sauf qu'au lieu de le faire en un livre, ça va m'en prendre 12 à moi. Non, non, alors, mais c'est des mini. C'est vrai que ça fait un petit peu Dan Brown en mini. Ouais. Mon éditeur dit souvent que ça fait un peu Indiana Jones aussi.
Oui.
Mais je veux surtout dire que les gens ont l'impression que c'est peut-être un livre jeunesse, mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'adultes qui les lisent parce que vous allez apprendre plein de choses.
Sylvie Payette, il nous reste malheureusement peu de temps à chaque fois. Si vous saviez, au début, ça durait 4 minutes les entrevues. On avait passé à 6, à 8. Maintenant, on est à 15 et il en manque encore. On arrive à l'histoire.
Je reviendrai quand vous serez rendu à 2h20.
Exactement. Et non, on a juste une petite minute parce que l'histoire, c'est important pour vous. C'est peut-être même pour ça que vous avez autant aimé le livre Le Grand Cœur de Jean-Christophe Ruffin.
Oui, c'est important pour moi de voir d'où on vient, qu'est-ce qui s'est passé, comment on est passé. Le Grand Cœur, ça raconte le moment à presque exact où on est passé du Moyen-Âge à la Renaissance, à tel point que le château qui s'est fait construire, bon, la demeure qui s'est fait construire, le devant était sous une architecture du Moyen-Âge et le derrière est Renaissance. Alors, quand vous regardez le château, il est en deux, parce que c'est à ce moment-là que ça s'est fait. Et l'écriture de cet auteur, M. Ruffin, est extraordinaire. C'est le moment où un auteur est magnifique.
Merci beaucoup. C'était Sylvie Payette qui était avec nous. N'oubliez pas son livre « Petit déjeuner compris » et « Savannah ».
Oui, essayez « Savannah », vous allez avoir du plaisir.
Vous écoutez « À livre découvert » avec Clotilde Seille et ses invités.
Il faut tourner la page, changer de paysage. Pied sur une berge vierge. Il faut tourner la page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu. Nu. Et là enlacé l'arbre, la colonne de marbre diffuse dans le ciel, tel que tu quittes la terre vers un point solitaire, constellé de pluriel. Il faut tourner la page. redevenir tout simple, comme ces âmes saintes qui disent dans leurs yeux mieux que toutes les facondes des redresseurs de monde, des faussaires de Dieu. Tourner la page, jeter le vieux cahier des charges. Oh yeah, il faut faire silence, traverser d'une lance qui fait saigner un sang. Tourner la page, aborder le rivage où rien ne fait semblant. Saluer le mystère, sourire et puis se taire.
Pour ouvrir cette deuxième heure de l'émission Un livre découvert, j'ai eu envie de vous faire entendre cette chanson « Il faut tourner la page », chanson de Nougaro, chantée par Morane. « Il faut tourner la page, changer le paysage, le pied sur une berge, vierge, il faut tourner la page, sourire et puis se taire ». J'ai choisi cette chanson-là pour illustrer le premier titre de la chronique sur la table de chevet de Clotilde que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, parce que les livres s'accumulent vraiment sur ma table de chevet. Les deux livres dont je vais vous parler, je les ai commencés, comme c'est souvent le cas, j'en commence plusieurs à la fois et je les adore l'un comme l'autre. Le premier colle bien, du moins, je ne sais pas s'il colle autant que ça à cette chanson de Nougaro, mais disons que la chanson « Il faut tourner la page » amène bien ce livre. « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce » de Lola Lafont. Au moment où j'enregistre cette émission, le titre est encore en traitement, mais d'ici quelques semaines, peut-être une semaine, au moment où je vous parle, il sera absolument disponible. De quoi s'agit-il ? Eh bien, suite au viol qu'elle a subi, elle, la narratrice, elle a commencé par se taire, et puis elle a parlé, et puis il y a eu un procès qu'elle a perdu, et puis le violeur s'est retourné contre elle, et lui l'a poursuivi. Et lui, il a gagné son procès. Alors, comment tourner la page après cela ? La narratrice se souvient, et de tant d'autres choses aussi, alors qu'elle est au chevet de son amie, Émilienne, qui est maintenue en vie par une machine qui semble ne jamais devoir se réveiller. Émile est morte, ou du moins elle est en train de mourir. Elle a été victime de la mort subite dans un café. Elle est tombée. Et la narratrice, qui est une danseuse qui ne danse plus, raconte son amie, sa presque sœur. Elles sont toutes les deux liées par une expérience muette. Elles sont toutes les deux liées par un viol qu'elles ont subi, par cette passion silencieuse qu'est la danse classique. Et voilà 2 ans qu'elles vivent au ralenti, endormies, de peine et d'impuissance, dans un pays qui est grignoté de violence répressive, notamment après une élection. Jusqu'à un moment donné où il arrive un troisième personnage, qui est la petite fille au bout du chemin. Et tout d'un coup, avec la petite fille au bout du chemin, tout d'un coup, elles vont devenir des filles qui vont s'acharner à ne pas laisser les rois barbares, quels qu'ils soient, leur couper les nerfs. Donc, elles vont arrêter de se taire. Il s'agit là d'un conte. Oui, c'est un conte, mais où l'esprit de révolte se côtoie la poésie. Et un conte dont la morale pourrait bien être « Où danger de ne pas aller assez loin ?» pour les oiseaux de sexe féminin. J'ai envie de vous en lire un petit extrait ici. Raconter à la police, à un psychiatre, reformuler, répéter, répondre plusieurs fois aux mêmes questions soupçonneuses, une confrontation face à celui qu'on appellera l'adversaire, est organisée dans le bureau d'une juge à la mine lassée. Il veut bien l'admettre, la nuit du 14 septembre, je n'avais pas l'air bien, dit-il devant son avocate, embarrassée de l'aveu. Vous l'avez clairement entendu dire non, demande la juge. Il regarde son avocate en biais, Elle se tend, elle ouvre la bouche pour parler, mais il la devance. « Je n'ai pas bien compris, je n'ai pas entendu, elle ne l'a pas dit, en tout cas très fort. Peut-être qu'elle a dit « non », mais pas « non, non, non ». Alors tous ensemble, ils se mettent à compter mes « non », évolue la portée de la voix, la clarté de la requête de ces « non » cette nuit de septembre. C'est vraiment un livre à lire. Lola Lafont, « Nous sommes les oiseaux de la tempête qui s'annonce ». Si vous saviez comment j'aime ça, j'ai des livres partout autour de moi. Bon, alors là, c'est lequel j'aime. j'adore. Je suis très malheureuse, moi, avec le livre numérique. J'ai encore besoin d'avoir cette petite chose comme ça entre les mains. L'autre livre dont j'ai envie de vous parler, je ne l'ai pas encore lu. En fait, je n'ai lu que les 4 premières pages. C'est un livre dont on me parle depuis tellement longtemps. C'est un des chouchous de Pierre Foglia. Et encore tout à l'heure, j'avais laissé la pile de livres que j'amène avec moi en studio et elle était en évidence sur mon bureau et j'ai une des collègues qui m'a dit oh, « Est-ce que tu es en train de lire ça ?» Je lui ai dit « Je viens juste de commencer. » Elle dit « Ça va être un des livres de ta vie. » C'est vous dire à quel point il a l'air important pour bien du monde. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de « L'équilibre du monde » de Roynton, R-O-H-I-N-T-O-N, Roynton, Mystry, M-I-S-T-R-Y, « L'équilibre du monde ». Un résumé à travers la vie d'un seul quartier et de son petit peuple de Cour des Miracles habité par des personnages venus de tous les horizons, Roynton Mystry réussit une fresque bigarrée et sensible qui est tout à la fois une parabole de la condition humaine et de l'odyssée d'une nation. Révélation de la littérature anglo-indienne en plein essor, consacrée par le succès et la critique internationale, Roynton Mystry démontre un talent romanesque digne d'un Dickens ou d'un Hugo. C'est ce que j'ai pu lire dans des sites à droite et à gauche et c'est aussi ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche. Scène de tendresse, épisode d'une drôlerie pathétique, séquence de violence et d'horreur, problème politique en arrière-plan. L'équilibre du monde est bien plus qu'une fiction, il est un monde à lui seul. C'est un roman fleuve, charriant dans ses remous tout un flot de sentiments, d'émerveillements et de révoltes, une immense saga aux vertus stimulantes et magiques, évidemment disponible au SQLA. J'ai l'avis d'un lecteur ici qui dit « Où est l'équilibre dans ce monde ? Y en a-t-il ?» De l'équilibre. S'il y en a, celui-là n'est-il pas fragile ? Il a suffi d'une loi, d'un décret pour plonger l'Inde dans le chaos et la violence. Il suffit de bien peu pour que la lumière vire à l'ombre. Un coup de main sur la lampe, un léger vent, un petit changement, et le cours de nos vies se voit modifié. Comment faire pour revenir à la lumière ? Comment faire pour équilibrer le monde si celui-ci se penche plus sur un côté que l'autre ? L'espoir dans le désespoir semble nous expliquer l'auteur, l'amour dans la haine, la douceur dans l'horreur, la paix dans la violence, la joie dans la tristesse. L'équilibre du monde est un roman dense, riche, émouvant et drôle quelquefois. Les personnages sont si touchants que l'on s'y attache au point de ne leur souhaiter aucun malheur et pourtant, c'est avec tristesse que nous avons à les quitter à la dernière page. Un lecteur nous dit « L'équilibre du monde est un de ces romans que je conseillerais au plus grand nombre ». Et je vous le disais, c'est aussi un livre qui fait partie des chouchous de Pierre Foglia. Lorsque je suis allée récemment une fois de plus dans une librairie, je suis tombée sur ce livre et je n'ai pas résisté. Je vous lis un extrait que j'ai choisi quasiment au hasard, puisque comme je vous le disais, je ne l'ai pas encore lu. Il y a les livres que je suis obligée, entre guillemets, de lire pour l'émission. Et puis, il y a ceux sur ma table de nuit que j'ai hâte de lire aussi pour moi. Alors, voici un extrait. « Où qu'il se tourna », un extrait, je vous le rappelle, de « L'équilibre du monde » de Roynton Mystry. Où qu'il se tournât, il voyait surgir Barak Zekaout. Ça lui rappelait la rapidité avec laquelle la gale avait envahi son chien favori. Les campements misérables s'accrochaient au flanc des montagnes, les gens accourant de toutes les directions, attirés par les histoires qui circulaient à propos de construction, de richesses et d'emplois. Mais la cohorte des sans-emploi augmentant à une vitesse exponentielle par rapport à celle des emplois disponibles, une armée d'affamés s'installa en permanence sur les pentes. Ils dévastaient les forêts pour allumer leur feu. De grandes plaques chauves apparaissaient sur le corps des montagnes. Alors les saisons se révoltèrent. La pluie qui d'habitude faisait pousser et mûrir les fruits et les plantes s'abattit en torrents sur les collines dénudées, causant glissements de boue et avalanches. La neige qui autrefois matelassait les sommets tomba en quantité maigrichonne. Même au plus fort de l'hiver, elle ne fournit qu'une couverture élimée et trouée. La rébellion de la nature procura à M. Collat une satisfaction perverse. Il prit cela pour une sorte de justification. Il n'était pas le seul que ce viol hideux épouvantait. Mais le désordre des saisons se poursuivant d'année en année, il n'en tira plus de réconfort. Plus légère se fit la couverture de neige, plus lourd fut son cœur. Magnifique écriture, hein? Rohinton Mistry, cet extrait, je vous le disais, de L'équilibre du monde. Voilà deux livres qui vont retrouver leur place favorite à mes côtés ce soir, autrement dit, sur ma table de chevet.
De bouche à oreille, une page de littérature.
Alors, c'est un petit peu la bande-annonce de la semaine prochaine. D'abord, laissez-moi vous parler du livre d'Alexandre Postel, Un homme effacé. Alexandre Postel, c'est un type, je me suis dit, comment peut-on passer à côté d'un prix Goncourt du premier roman ? Parce que c'est ce qu'il a reçu, M. Postel, sans compter qu'il a reçu, il y a quelques semaines, le prix littéraire Québec-France Marie-Claire Blais, qui lui a été remis au plus récent Salon du livre de Québec. Alors, je l'ai donc rencontré, Alexandre Postel, pour ce bouquin « Un homme effacé » que j'ai littéralement dévoré. C'est un livre en deux parties, où la première partie, on assiste impuissant à l'inculpation du héros, en d'autres termes. Il est inculpé pour pédopornographie via Internet. Tout l'accuse, ce prof de philo, mais il est absolument innocent. Mais comme tout l'accuse et que c'est un type hyper introverti, bien, il se laisse complètement accuser et il finira en prison. Et dans la seconde partie, je ne vous dirai pas tout car ce serait péché. Je peux vous affirmer qu'on va de surprise en surprise. On constate que dans ce monde rempli de gens bien intentionnés, les voyeurs ne sont pas ceux que l'on pense. C'est un livre plein d'humour avec une touche de poésie. Aussi surprenant que cela puisse paraître, j'en ai un très très court extrait ici à vous lire. Voilà. On a trouvé la photo d'une gamine chez vous en maillot de bain. C'est qui ? Pas de réponse. C'est qui ? Ma nièce. Votre nièce. Vous éprouvez des sentiments pour elle, des désirs peut-être, qui vous ont effrayé ? Alors vous avez préféré vous réfugier dans les images, c'est ça ? Je comprendrais, vous savez, n'importe qui peut comprendre. Vous êtes célibataire ? Veuf, enfin techniquement, nous n'étions pas mariés, mais depuis longtemps, reprit Estange après l'intervalle de silence que provoquait invariablement cette réponse. 12 ans. Et vous avez quelqu'un dans votre vie en ce moment ? Non. Voyez-vous, alors tout est mené, tout est fait pour qu'on soit intimement convaincu que cet homme-là est coupable alors qu'il est absolument innocent. Le bonheur, la dépendance à soi-même de Louise Mercier. Je vais aussi la recevoir la semaine prochaine, un livre que l'indécrottable célibataire n'a pas encore lu, mais que je vais lire d'ici la semaine prochaine. Voyons ce qu'on nous dit sur la quatrième de couverture. Dans la société nord-américaine, beaucoup de gens misent sur le couple pour être heureux, la relation amoureuse obligée dans l'évaluation de leur réussite en tant qu'être humain. Or, cette dépendance à l'autre pour être heureux amène bien souvent son lot de déceptions, de souffrances, d'anxiété et de stress. Vous l'aurez compris, on va parler de relations amoureuses. Louise Mercier détient un baccalauréat en psychologie de l'Université d'Ottawa, ainsi qu'un MBA de l'Université McGill. Elle a évolué dans le milieu des affaires, du divertissement, des communications et de la production. Elle s'est toujours intéressée à l'autre et aux relations humaines. C'est une meilleure compréhension de l'être humain sur les plans psychologiques et communicationnels qui joue un rôle prédominant dans sa vie. Et j'ajoute qu'elle est depuis peu de temps également bénévole à l'émission Kiosque Magazine. C'est elle qui a enregistré son propre livre, dont voici un court extrait. L'amour nous rend vulnérables. Nous nous ouvrons à l'autre sans protection et sans contrôle quant à la souffrance que cet état peut potentiellement engendrer. Je ne suis pas mère, et mes tantes et marraines de deux magnifiques nièces. À la naissance de la première, j'ai intensément ressenti ce vertige de l'amour inconditionnel pour la première fois de ma vie. J'en étais presque fâchée contre mon frère. Il avait pris la décision d'avoir un enfant et à la rencontre de sa fille, j'ai immédiatement senti que cette nouvelle présence allait m'affecter pour le reste de ma vie. Je savais instinctivement que je ne serais plus jamais la même et qu'il ne faudrait pas que quelque malheur frappe ce petit être si fragile. Elle est née prématurément 6 semaines avant terme. Voilà, c'est signé Louise Mercier que je reçois la semaine prochaine. Le bonheur, la dépendance à soi-même.
Des nouvelles et des livres.
Bon, ce n'est pas une nouvelle qui date d'avant-hier, mais je me suis dit qu'il fallait quand même qu'on l'évoque. C'est le prix Nobel de littérature Günter Grass, qui est mort à 87 ans à Lübeck, la ville du Nord où il résidait. Günter Grass, conscience morale de l'Allemagne post-nazisme, dont il était le plus connu d'ailleurs. Sur sa page internet, frappé de la mention Günter Grass, 1927-2015, son éditeur, qui s'appelle Heidel, et qui a annoncé le décès dans un tweet, a publié des photos noir et blanc de l'écrivain si reconnaissable avec son épaisse moustache, sa pipe toujours allumée et ses lunettes baissées sur le nez. Selon la maison Günter Grass, à Lübeck, le prix Nobel de littérature 1999 est décédé dans une clinique des suites d'une infection, on n'en sait pas plus. Homme de gauche, réputé pour ses prises de position polémiques, il était l'écrivain allemand de la seconde moitié du XXe siècle le plus connu à l'étranger. Longtemps compagnon de route des sociaux-démocrates et proche du chancelier Willy Brandt, il a pourfendu les omissions de la classe dirigeante d'après-guerre sur le nazisme. Un positionnement qui donna un écho d'autant plus fort à ses révélations tardives dans son autobiographie, Pelure d'oignon, en 2006. Ancien membre de la jeunesse hitlérienne, il avait été enrôlé en 1944 dans les Waffen-SS. Günter Grass, qui a accompagné et marqué comme personne l'histoire de l'Allemagne d'après-guerre avec son engagement artistique, politique et social, ce sont des mots de la chancelière Angela Merkel, telle qu'elle a été citée par son porte-parole. Et il était en effet à la fois une figure incontournable du paysage littéraire allemand et un acteur du débat public national qu'il contribuait à secouer par ses prises de position souvent polémiques. Son plus grand chef-d'œuvre reste Le Tambour, l'histoire d'Oscar Mazzerat, ce petit garçon qui décide de ne plus grandir et dont l'instrument résonne des soubresauts du nazisme, de la guerre et du monde violent des adultes. Un succès planétaire qui a d'ailleurs été adapté au cinéma par Volker Schlöndorff, qui a reçu la Palme d'Or à Cannes en 1979 pour ce film, peut-être vous en souvenez-vous, puis l'Oscar 1980 du meilleur film en langue étrangère. Je suis donc allée voir où est-ce que là ce que nous avons. Nous avons Le Tambour, nous avons également Le Chat et la Souris de Günter Grass et nous avons également En Crabe. C'est un autre titre de Günter Grass qui, je vous le rappelle, est mort il y a maintenant trois semaines. J'ai un extrait du Tambour à vous lire, Le Tambour de Günter Grass, sans doute son livre le plus célèbre. Au-dessus du piano, le portrait du sombre Beethoven, cadeau de Greff, fut ôté de son clou et au même clou fut exposé un Hitler au regard pareillement sinistre. Mazzerat, qui n'avait pas le goût de la musique grave, voulait bannir sans rémission le musicien sourd. Pourtant, maman, qui aimait beaucoup les phrases lentes des sonates beethoveniennes, les avait étudiées sur notre piano 2 ou 3 fois plus lentement qu'il n'était indiqué et les faisait s'égoutter de temps à autre, obtint à force d'insistance que le Beethoven prit place non pas au-dessus du divan, mais au-dessus de la desserte. Ainsi commença cette confrontation sinistre entre les plus sinistres. Hitler et le génie, suspendus face à face, se regardaient, se perçaient à jour. Et pourtant, n'éprouvait aucune sympathie réciproque. Extrait du livre Le Tambour de Günter Grass.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors, on commencera par un livre de Claude Jasmin, tiens, qui ferait aussi un très, très bon invité à cette émission, un livre découvert, Élise, la fille de sa mère, que je trouve le bouquin, il est ici. Donc, Élise, la fille de sa mère, comme j'étais jeune, comme j'étais en amour, par-dessus la tête, elle aussi, ma belle Élise, pourtant, elle va me jeter cruellement un jour parce que je n'étais pas digne d'elle, de ses ancêtres. Pauvre innocent, je ne savais donc rien des classes sociale. Candide, je me croyais digne de n'importe qui. L'amour, le grand amour des jeunes gens devait triompher toujours. Pauvre naïf, j'allais découvrir que chez ces gens-là, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, les futures héritières et les fils du peuple. Après Anita, une fille numérotée, Claude Jasmin continue de se pencher sur ses amours de jeunesse, avec les difficultés pour un catholique de fréquenter une jeune juive. C'est la différence de classe sociale qui, cette fois, compliquera la vie des amoureux. Élise, la fille de sa mère, de Claude Jasmin. Voilà un tout petit livre que je tiens entre mes mains sur papier. Il n'a que 150 pages à peu près. Ça s'intitule « Frères » au pluriel et ça a été signé par un Québécois. C'est un gars de Sherbrooke, si mes souvenirs sont bons. Il s'appelle David Clairson, C-L-E-R-S-O-N. David Clairson, « Frères » au pluriel. C'est un livre qui tient plus du domaine de la fable et du fabuleux dans le sens d'extra ordinaire, d'inusité, d'inattendu. C'est un peu un livre dans lequel j'ai retrouvé l'ambiance des livres d'Agatha Christophe pour ceux qui ont peut-être lu cet auteur-là. On est entre le fantastique, le réel, l'absolument impossible, l'incongru, parfois un tout petit peu de violence au détour d'une page alors qu'on s'y attend absolument pas, et beaucoup de poésie. Et c'est vraiment... On n'est pas surpris que ce livre-là ait obtenu le Grand Prix littéraire Archambault, qui a couronné, donc il a été le 13e lauréat de ce Grand Prix littéraire en 2014. Il a aussi remporté un prix France-Québec du meilleur roman, ce jeune garçon David Clairson, pour ce livre-là, Frère. C'est un livre, bon, il est question de deux frères qui ont pour terrain de jeu des marais côtiers, qui ont en guise de jouet des os d'animaux qui sont charriés par les vagues et qu'ils récupèrent. Et puis un jour, ils prendront le large pour retrouver celui qu'ils appellent leur chien de père, qui est un homme de passage venu de la mer et qui est aussitôt reparti vers la mer. Alors c'est une odyssée fraternelle qui va débuter, qui va amener l'aîné à perdre toute son humanité et à découvrir le goût du sang en allant à la rencontre de ce père-là. Car il faut bien survivre quand la violence du monde risque de vous engloutir. C'est vraiment un excellent bouquin et un petit bouquin. Donc, facile, genre pour une fin de semaine de pluie. Un petit extrait. À la suite d'un de ces repas, les gargouillis qui luttent au ventre le rassurèrent et le firent même sourire. Ils étaient pour lui une douce musique, la musique de ses entrailles qui lui disait qu'il était bien vivant. Il pensa à sa mère, il se rappela qu'elle leur avait un jour raconté à lui et à son frère des histoires de ce temps où les gens parlaient du ventre, où s'y situait le siège de la conscience et que les ventres, en gargouillant, parlaient entre eux, dans une langue étrangère mais familière, dans une langue de tous les jours que plus personne ne savait déchiffrer. Dans un domaine beaucoup plus léger, Lit double de Jeannette Bertrand, c'est le tome 3. Jeannette Bertrand, faut-il le rappeler, qui a vécu en couple plus de 60 ans et qui continue de nous transmettre par le biais de la fiction des moyens pour tisser une relation de couple durable. Alors là, entre autres, il est question de Claude et Francis, oui, un couple gay, puisqu'elle explore les possibilités pour un couple gay de vivre dans l'harmonie et l'amour durant de longues années. On y retrouve comme toujours de la tendresse, de l'humour, des dialogues percutants. Dans la presse du 27 octobre 2014, quelqu'un écrivait « Dire les relations de couple, oui, mais dire aussi la vie sexuelle après le cancer du sein, l'impuissance chez l'homme, les Y, les conséquences inattendues d'une thérapie ou d'une adoption, les enfants rois ». Autant de sujets qu'elle aborde de front, Jeannette Bertrand, dans son roman « L'idouble 3 », le troisième et dernier tome de sa série. Bien évidemment, les deux autres sont aussi au SQLA. Harlan Coben est un de vos chouchous du suspense et du polar. Voici 6 ans déjà. 6 ans plus tôt, donc 6 ans déjà, c'est le titre. 6 ans plus tôt, Jack a assisté impuissant au mariage de Nathalie, l'amour de sa vie avec un autre. Et lorsqu'il apprend la mort du mari de Nathalie, Jack n'a plus qu'un but, la revoir. Mais à l'enterrement, la veuve éplorée n'est pas celle qu'il croyait retrouver. Il fait face à une parfaite inconnue, alors il se pose la question, mais où est donc Nathalie et pourquoi lui a-t-elle menti? C'est le contenu de ce nouvel opus de Harlan Coben qui s'intitule « 6 ans déjà ». Et puis, je voudrais vous suggérer en mission une vie au sein de la Croix-Rouge d'Elisabeth Carrier. C'est une femme qui a visité des prisons au Rwanda, au Tchad. Elle a travaillé à la diffusion du droit international humanitaire en Croatie. Elle a aidé à installer des hôpitaux de campagne au Pakistan. Elle a porté assistance aux blessés de guerre un peu partout dans les régions chaudes du globe. Elle nous raconte cette vie-là, cette vie exemplaire, cette vie exceptionnelle. C'est un livre à ne pas manquer. Je vous redonne le titre, En mission, une vie au sein de la Croix-Rouge d'Elisabeth Carrier. Carrier, C-A-R-R-I-E-R. Voilà, merci à mes invités Gérard Saint-Denis et Sylvie Payette. Merci à Jean-Sébastien Laliberté de m'avoir accompagné encore une fois aujourd'hui. Merci à vous d'être là. Je vous souhaite de belles et d'heureuses lectures. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.